Nous sommes ce matin en compagnie de Gonzague Yernaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous définissez comme un écrivain indépendant, alors présentez-vous en quelques mots.
Eh bien écoutez, je suis assistant et chercheur à l'université de Namur et en parallèle de ça, j'ai vraiment la passion de l'écriture et de la littérature en général. Comme je ne tiens pas en place, je me suis efforcé de combiner tous mes projets et donc j'écris en parallèle. Indépendant en fait, c'est un peu un joli mot pour dire que je suis en auto-édition et comme je propose aussi mes services d'écriture et de rédaction, et que je ne me limite pas à la publication d'ouvrages spécifiquement. Ben voilà, j'ai utilisé ce mot, mais qui ne veut rien dire en fait.
Juste histoire de vous situer, quoi.
Exactement, oui.
Alors, vous avez déjà plusieurs ouvrages à votre actif. En 2023, vous avez sorti un roman, Le Premier Fou. C'est une histoire qui se déroule au Moyen-Âge.
Exactement, c'est une histoire qui veut retracer l'histoire du premier bouffon du roi, hein, d'où le titre. Néanmoins, elle est complètement fictionnelle. Elle est écrite surtout dans un style très particulier. Il y a un vrai parti pris derrière. J'ai voulu écrire dans un style nouveau et original. Et ce narrateur, justement, est presque un personnage à part entière. Il a ce côté un peu insupportable, il donne son avis sur tout. C'est ce qui donne un petit peu l'originalité du récit. Et puis, il y a beaucoup de digressions aussi. Ce qui fait que l'histoire est racontée un petit peu à la façon d'une fresque très fragmentée, presque. On a envie de le secouer pour lui dire « Allez, fais avancer l'histoire principale. » Mais ce que j'ai envie de susciter chez le lecteur, c'est la question est-ce que l'histoire principale, c'est pas justement de connaître un peu mieux ce narrateur qui, lui, est ancré dans notre période contemporaine, hein, et qui affirme être en cohérence avec l'histoire et les archives, alors que manifestement il n'en est rien, il a même tendance parfois à supprimer un personnage qui ne lui plaît pas, ou à remodeler un peu l'histoire à sa façon. Et cette histoire, pour rentrer plutôt dans le récit en lui-même, c'est l'histoire d'un chevalier errant qui débarque dans un village moyenâgeux, et en fait c'est avant tout l'histoire d'une grande amitié, parce qu'il se lie d'amitié très rapidement et très fort avec le ménestrel du village et puis le baron qui est le chef du village. Et ensemble, en fait, ils vont s'unir alors que ce chevalier errant, au départ, est très rustre, etc. Et on assiste à sa transformation pour qu'au final, il devienne en fait cette première figure du bouffon du roi. À ce moment-là, plutôt le bouffon du baron. Hein. C'est seulement dans les opus suivants que le roi va intervenir, mais il se transforme un peu malgré lui. Et grâce à son amitié avec les deux autres. Et puis, il y a toute une histoire aussi de mystère et d'enquête. Je suis assez fan de mon côté d'escape game. Je crée des petits escape games fait maison. Et j'ai voulu insérer ça dans ce récit. Donc, il y a toute une dimension aussi un petit peu mystérieuse et où toutes des pièces du puzzle doivent s'emboîter. Et ce mystère, en fait, fait que les trois personnages principaux, donc hein, le chevalier, le baron et le ménestrel, finissent par en fait enquêter sur un mystère qui plane sur ce petit village médiéval complètement inventé, évidemment.
Et il y aura une suite.
Il y aura une suite, effectivement. La suite directe, elle est déjà écrite. Elle est en relecture actuellement par mon petit comité de relecteurs que je remercie au passage.
Le premier festival.
Le premier festival. Oui, exactement. Donc ça se déroule plusieurs années après les événements du premier opus. À partir du folklore autour du bouffon et de ce premier fou, va s'organiser effectivement tout un festival haut en couleur, toujours dans ce petit village d'escape médiéval. C'est beaucoup plus explosif, beaucoup plus incisif, donc cette suite, elle est très différente parce qu'elle prend le premier opus sur le contre-pied. Pour vous dire, pour démarrer l'histoire, on apprend que le narrateur qui était justement insupportable, qui était en fait un auteur dépêché par une agence, s'est fait virer tout simplement parce qu'il était justement trop lui-même en fait et il donnait trop son avis. Et donc il est remplacé par quelqu'un de beaucoup plus efficace, mais qui a ses petits travers aussi, et c'est ça qu'on rencontre à travers le livre. Mais donc ça commence, le premier festival commence de façon beaucoup plus incisive, beaucoup plus rapide, presque comme un roman d'aventure où tout s'enchaîne très vite. Petit à petit, on découvre que peut-être que le narrateur qui s'était fait virer donc, après le premier fou, il n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Alors vous aimez varier les plaisirs, hein, puisqu'il y a quelques mois vous avez aussi sorti un recueil de 17 nouvelles, des nouvelles qui ont toutes un point commun.
Oui, elles ont un point commun qui est assez large. Hein. Donc le recueil s'appelle « Les pros et les cons ». Moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Et évidemment, ça fait référence à l'anglais « pros and cons » pour dire simplement les avantages et les inconvénients. Mais j'aimais bien la tournure en français parce que ça montre qu'on est tous parfois, dans certains contextes, on est le pro, on est l'expert dans soit dans notre domaine, soit dans une activité spécifique. Mais on a tous un versant où on est un petit peu con aussi, parfois. Un petit peu bête sur les bords. C'est ce qui arrive aux personnages dans ce recueil de nouvelles. Alors, elles sont toutes un peu cocasses, loufoques, fantaisistes, tout en étant ancrées dans notre époque contemporaine, hein, donc rien à voir avec le roman. Dans ces histoires, ce sont toutes des nouvelles à chute. Et le fil rouge réel de ces histoires, parce qu'elles sont très séparées, mais le fil rouge réel se découvre dans la toute dernière nouvelle qu'il faut vraiment lire en dernier lieu, parce qu'elle... elle vient un peu donner du lien à toutes les autres.
Alors, outre ces ouvrages, moi, ce que je trouve très sympa, c'est que vous écrivez aussi des fables pour des occasions spécifiques. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire appel à vous pour des mariages, par exemple, des baptêmes ou ce genre de choses ?
J'ai découvert ce plaisir-là dans mon propre mariage. Bah, on a organisé la cérémonie religieuse avec un prêtre qu'on connaît bien et qui nous a dit, bah, écoutez, les textes, ils doivent pas forcément être écrits par autrui, ils doivent pas forcément être déjà très éprouvés, vous pouvez même les écrire vous-même. Alors là, évidemment, il fallait pas me le dire deux fois. Donc, j'ai écrit une fable, en fait. Initialement, j'avais écrit une fable dans Le Premier Fou, parce que dans le roman, il y a, comme je l'ai dit, c'est vraiment une fresque, il y a toute une série de styles différents qui se juxtaposent, il y a même une pièce de théâtre au milieu, et il y a, à un moment, une fable, simplement, qui est là pour illustrer une idée qui a ensuite un personnage. Donc évidemment, il y a un lien avec l'histoire. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette fable et je me suis dit, bah, pour le mariage aussi, ça pourrait être une bonne façon d'illustrer un concept autour de... Bah, ici, c'était autour de l'amour, de l'entraide. Puis je me suis pris au jeu, donc j'ai commencé à proposer ça aussi ailleurs et j'ai écrit une fable pour un baptême. La fable m'avait été commandée par un ami. Donc j'ai écrit sur mesure une fable pour son... fiole pour le baptême et puis bah, moi-même j'ai été parrain et j'ai refait l'exercice d'écrire une fable et entre-temps j'en ai encore écrit quelques-unes et je trouve que c'est un très chouette moyen de parler à toutes les générations à la fois puisqu'on met en scène, je mets en scène des animaux un peu à la façon de La Fontaine mais peut-être avec un petit peu plus d'humour. Cela dit, c'est aussi un exercice très technique, hein, puisque je les écris en alexandrin. Et alors des fables, mais aussi des petits textes courts sur des thèmes bien particuliers pour ces occasions-là, mais aussi pour d'autres occasions.
Alors, si on désire faire appel à vous, que ce soit pour les fables ou bien encore pour se procurer vos ouvrages, comment peut-on faire ?
Alors, toutes les informations sont regroupées sur mon site web gonzaguierno.com, donc tout en un mot. Si on tape mon nom dans une barre de recherche, normalement, on tombe dessus. Si j'ai bien fait mon boulot. Vous tomberez sur un site un peu épileptique avec toute une série de couleurs déjantées. Mais voilà, il y a toutes les informations là-dedans. Et il ne faut pas hésiter à me contacter par ce biais-là. Je suis aussi présent sur certains réseaux sociaux.
Je vous confirme que vous avez très bien fait votre boulot parce que je vous ai trouvé sans peine. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de vous ce matin, Gonzague.
Ben, merci à vous de m'avoir donné cette chance. Avec grand plaisir.